Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Allez, ça faisait longtemps. Ce soir, nous parlons de Donald Trump dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Oui, le président américain, il faut le reconnaître, moins omniprésent que lors des 100 premiers jours de son second mandat. Son silence, d'ailleurs, pour ne pas s'être opposé à l'offensive israélienne en Iran, fait l'objet de critiques. Et des critiques qui, aux États-Unis, deviennent une forme de contestation avec le week-end dernier des milliers de manifestations qui ont été organisées à travers le pays, initiative inédite depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et que dire de ce qui se passe à Los Angeles, où depuis une dizaine de jours, le président américain multiplie les gros moyens pour tenter d'éteindre un mouvement de protestation contre les interpellations de sans-papiers. Face à cette situation, notre question ce soir dans le débat du jour, Donald Trump est-il fragilisé ? Quel est l'impact de la contestation actuelle ? Jusqu'où peut-elle aller ? Et comment le président américain amorce-t-il ce premier virage de son mandat avec en ligne de mire les fameuses midterms, les élections de mi-mandat qui auront lieu déjà en novembre 2026 ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités à mes côtés en studio, Anne Desine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, et votre ouvrage, Les juges contre l'Amérique. Face à vous, Pierre Gervais, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, avant de vous donner la parole, on va partir à Los Angeles. Mm-hmm. Donc, je disais, épicentre aujourd'hui de cette contestation de Donald Trump. On va retrouver les envoyés spéciaux de RFI sur place, Bertrand Eclair et Abla Jounaidi. Bonsoir, Abla.
Bonsoir.
D'abord, les raisons, avec vous, Abla, de cette protestation. Alors, j'évoquais les interpellations de sans-papiers. Donald Trump est déterminé à appliquer sa promesse de campagne, celle de réaliser, alors selon ses propres mots, évidemment, le plus grand programme d'expulsion massive de l'histoire.
Oui, et Romain, force est de constater qu'il cherche à s'en donner les moyens ici en Californie. Les arrestations se poursuivent tous azimuts dans cet État démocrate particulièrement ciblé par l'exécutif. L'objectif délirant, c'est d'arriver à 3000 arrestations par jour de migrants sans papier. Ces derniers jours, on a vu des centaines d'interpellations par la police de l'immigration, parfois sans mandat.
La ligne a été coupée avec Los Angeles. Est-ce que vous nous entendez, Abla ?
Oui, je vous entends.
Alors,
vous
allez-y, entends, poursuivez.
Romain. L'objectif de Donald Trump est délirant puisqu'il s'agit d'opérer 3000 arrestations par jour de migrants sans papier. Et c'est vrai que ces derniers jours, on a vu des centaines d'interpellations par la police de l'immigration, parfois sans mandat. Beaucoup de familles n'ont plus de nouvelles depuis des jours de leurs proches. Et cette politique du chiffre, elle semble viser les populations sur la simple base de leur apparence, la couleur de leur peau. Et du coup, la peur s'est insidieusement glissée parmi les communautés hispaniques. Hier, nous sommes rendus dans le comté agricole de Ventura, où près de 40% des travailleurs ne sont pas retournés à leur poste.
La ligne, elle est difficile avec Los Angeles. Je vais vous reposer une question. Je ne sais pas si vous nous entendez toujours, Abla. Abla Jounaidi, en direct de Los Angeles. Vous nous entendez ?
Je vous entends.
Je vais vous reposer une question face à ces mesures que vous avez détaillées, que vous avez évoquées. Il y a donc cette mobilisation d'une partie des habitants de Los Angeles, ces manifestations ces derniers jours. Quel est l'impact de ces mouvements ? On a perdu Abla Jounaidi. C'est dommage, c'est intéressant. Qui nous campait un peu le décor. Alors allez-y Abla, dernière chance. Après on va passer au débat. Quel est l'impact de ces mouvements ?
Bah écoutez, ces mouvements, ils cherchent à être présents pour réagir à cette politique, malgré la présence des Marines, malgré la présence de la Garde nationale.
Bon, là, je crois qu'on peut renoncer.
Hein. Oui, on va vous poser la question. Merci en tout cas, on va remercier nos envoyés spéciaux. C'est compliqué la liaison avec Los Angeles ce soir. Anne Desine, cet impact, vous le jugez comment de ces manifestations? Donc, est-ce qu'elles sont inédites déjà depuis le début du mandat de Donald Trump ?
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que depuis le 20 janvier, il y a des attaques contre les contre-pouvoirs, contre les médias, contre les universités, des limogeages illégaux, du blocage de fonds illégal aussi. Mais il n'y avait eu que des petites réactions, surtout en justice. Il semblerait que les démocrates et même la société civile étaient en état de sidération. Et là, c'est vraiment le facteur qui déclenche. Là, Trump est allé trop loin. En fédéralisant la garde nationale, en envoyant les marines, alors que et le gouverneur et la maire expliquent qu'il y a effectivement des problèmes, mais dans deux petits endroits et non pas sur les centaines.
La réponse, elle est disproportionnée.
Elle est complètement disproportionnée et on voit bien ce qui s'est passé samedi. Il y a eu 2000 manifestations, ouais. Très bon enfant, sans incident pratiquement, avec les signes « no king », pas de royauté, « no ICE », fin de la police fédérale de l'immigration. Et oui, je crois que c'est quand on regardera là, d'ici quelques semaines, ce sera un tournant. Ouais. Il semblerait... Alors, il n'y a pas encore d'incarnation chez les démocrates, mais bon, vous savez que la Constitution commence par « we the people », nous, le peuple américain. Donc, ce n'est pas une coïncidence que, en fait, le mouvement débute avec le peuple, avec la société civile.
Le tournant, c'est la question, et c'est le mot que je voulais lancer à Pierre Gervais. Est-ce que c'est un tournant pour vous ? Donc, ces milliers de manifestations le week-end dernier, évidemment le jour de la parade militaire de Donald Trump à Washington, le jour de ses 79 ans, et cette contestation depuis 10 jours à Los Angeles, et ces moyens évidemment disproportionnés, les Marines, la Garde nationale, déployés par Donald Trump.
Oui, alors malheureusement, le fait d'avoir des manifestations de masse, effectivement, on a 8 millions qui ont quand même eu des... Alors, il y a eu des incidents assez graves quand même. Il y a eu plusieurs blessés, il y a eu un mort suite à une tentative d'attaque.
Oui, mais sur des millions de manifestants.
Ah bah, ça fait quand même un mort. Oui, ben... Donc, ce n'est pas tout à fait rien, mais en plus, on continue. Le problème de la manifestation est qu'elle ne débouche pas sur un changement de politique et d'un changement de ces politiques que vous avez parfaitement raison de rappeler, hein, que ma collègue avait parfaitement raison de rappeler, sur le fait de miner la société civile et de miner les organisations de la société civile. Ça continue au même rythme, et votre correspondante à Los Angeles n'avait pas tout à fait eu le temps de le dire, mais en réalité, ce qu'elle impliquait, c'est bien que les arrestations d'immigrants continuent au même rythme, quelles que soient les protestations. Ça, ouais. C'est un premier point. Le degré de violence augmente. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu une représentante du Minnesota qui a été abattue pour des raisons tout à fait politiques. Le degré de contrôle sur la garde nationale, sur les différentes institutions, augmente également sans arrêt. Hein. À mesure qu'on avance, on a un contrôle trumpiste de plus en plus étroit de toute une série de contre-pouvoirs qui sont en train de disparaître sous nos yeux, à vrai dire. Et en face, vous avez effectivement des manifestations de masse, mais pas de relais au niveau du Parti démocrate. Quand le sénateur Padilla a été expulsé de manière tout à fait illégale d'une présentation de la responsable Homeland Security, merci. Donc, il a été expulsé, menotté, jeté à terre, etc. Ouais. Et de manière très étonnante, il n'y a pas eu de réaction très ferme au niveau du Sénat. Hein. Chuck Schumer, comme d'habitude, a
protesté
au niveau politique.
Mais la question est moins de savoir si Donald Trump dessert son étau. On a bien compris que non sur sa politique. Mais est-ce que l'opinion publique se mobilise plus c'était le cas, comme le disait Andesine au début du mandat.
C'est vrai, hein. Elle l'était quand même depuis le début. Il y a eu des manifestations avant les grandes manifestations de samedi dernier. C'est des manifestations importantes. Cela prouve qu'une partie importante de la population ne suit pas Trump. Mais sur le plan de ce qui se passe effectivement pratiquement dans les institutions, dans l'appareil de sécurité nationale et dans le contrôle du pays, il n'y a pas du tout de changement de trajectoire. La seule perspective de changement de trajectoire serait des élections à l'automne, mais encore faudrait-il que ces élections soient libres, et encore une fois, rien ne le garantit.
Et comment vous observez-vous justement cette opinion publique qui se mobilise ? Est-ce que la popularité de Donald Trump, elle flanche de plus en plus ?
Ça, c'est vrai. La popularité de Donald Trump a pris un certain nombre de faiblesses du fait de plusieurs problèmes politiques, entre autres, paradoxalement, les affaires internationales, parce qu'une bonne partie de sa base était extrêmement isolationniste, en grande partie antisémite aussi, il faut bien le dire, et donc s'oppose pour les mauvaises raisons au massacre à Gaza. D'une certaine façon, l'engagement aux côtés d'Israël, l'engagement inconditionnel aux côtés d'Israël contre l'Iran, lui fait perdre aussi des points. Ceci posé, encore une fois, le problème est le contrôle, on est dans une circonstance à la hongroise, hein, le problème est le contrôle du droit, le contrôle des institutions, et pour l'instant du moins, les manifestations ne se sont pas traduites par un ralentissement de la prise de contrôle de l'État.
Ah non, mais ça ne peut pas se faire instantanément. On a bien vu, il y a eu un premier retournement aussi sur les droits de douane. Il ne faut pas oublier le rôle des droits de douane.
Il y a beaucoup de sujets.
Voilà. Dans les sondages, on voit bien que les Américains qui avaient voté Trump n'avaient pas bien compris. Il avait promis de faire baisser le coût de la vie et ils apprennent que les droits de douane vont augmenter le coût de la vie et relancer l'inflation. Donc, on a un léger retournement dans les sondages. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que Trump, en fait, il a souvent eu très très peu, moins de 40%. Lui, il a sa base, les gens qui, eux, quoi qu'il se passe, le droit de douane, Los Angeles, immigration, ne bougeront pas.
Elle ne bouge pas, cette base ?
34, 35, 38%.
Après 5 mois de mandat, après le rétropédalage sur les droits de douane, avec les critiques sur l'international.
Oui, et le rétropédalage aussi sur les arrestations, parce que pratiquement, c'est impossible de renvoyer 3000 personnes par jour. Donc, il avait commencé à faire des rafles, en particulier dans les exploitations agricoles, où 40% du personnel est sans papier. Dans la restauration, même chose, 40% sans papier. Et ce sont les gens, l'industrie de la restauration, l'industrie agricole, qui ont dit à Trump, attendez, ça ne va pas du tout. Donc, il a dit, ah oui, quand même, c'est compliqué. Mais ensuite, il a remis un tweet, nous allons continuer. Donc, en fait, c'est très difficile parce que c'est incohérent. Mais il faut que ce mouvement qui a pris naissance, pour le moment, ne s'est pas concrétisé, il n'a pas pris de coloration politique. Les démocrates sont toujours aux abonnés absents. Donc, tant qu'il n'y aura pas de cette coloration, les démocrates ne seront pas prêts pour les élections de novembre 2026. Et Pierre a raison de souligner, avec le décret publié par Trump qui veut s'emparer du droit électoral, alors que la Constitution précise bien que ça relève des États et, le cas échéant, d'une loi du Congrès. Si vraiment les juridictions qui ont été saisies, bien sûr, parce que ce décret est illégal, ne peuvent rien faire parce que l'administration ne se plie pas à leurs décisions, les élections de 2026 ne se dérouleront pas de façon libre.
Ce que vous nous dites, c'est que la mobilisation populaire actuelle, la contestation de Los Angeles, les milliers de manifestations le week-end dernier aux quatre coins des États-Unis, cette mobilisation, elle est stérile si elle n'est pas soutenue politiquement ? Elle aboutira à rien si les démocrates ne prennent pas le relais ?
Oui, c'est ça. C'est même pas soutenu. Il faut qu'elle se traduise. Il faut que les démocrates identifient les thèmes qui font bouger les citoyens, finalement, ils semblent être un peu attachés à la primauté du droit et à un régime non monarchique, alors que Biden a fait campagne sur ce thème, alors sans doute mal. Harris a également fait campagne sur ce thème. Et on voit le résultat, c'est Trump qui a été élu.
Pierre Gervais, c'est les coups d'épée dans l'eau, cette mobilisation populaire, si elle est grandissante. Vous êtes d'accord sur un point, tous les deux, c'est qu'elle est grandissante.
C'est grandissant, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Une mobilisation, j'ai jamais un coup d'épée dans l'eau. Simplement, son effet est très limité par des circonstances qui sont doubles. D'une part, la violence de l'attaque trumpiste contre l'ensemble des organisations et des institutions de la société civile et de l'État. Donc, c'est vraiment un processus de prise de pouvoir, finalement assez rapide, quand on y pense. Il a pris le pouvoir qu'à la fin janvier. Et ça a quand même été très vite. Là, on a encore ce soir un candidat à la mairie de New York qui a été arrêté dans un tribunal d'immigration parce qu'il essayait d'aider des immigrants. Les immigrants sont un petit peu un prétexte. Ça permet d'arrêter des activistes, ça permet d'appeler la garde nationale, ça permet de mettre fin à l'état de droit. Donc ça, c'est une première limite. Face à ce type de choses, on a vu dans d'autres pays qu'effectivement, une mobilisation massive, je pense en particulier à la Pologne, avait quand même des effets au bout du compte, pouvait freiner le processus de prise de pouvoir de ce qui est en pratique un parti fasciste. Alors ça dépend comment on le définit, mais disons certainement ultra-autoritaire dans une tradition déjà ancienne. Mais le deuxième élément important, c'est qu'il y ait des relais politiques, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas forcément que les démocrates organisent ces manifestations. C'est d'ailleurs pas eux qui les ont organisés majoritairement, mais qu'effectivement ce soit relayé au niveau du Congrès, au niveau du discours politique.
Mais est-ce qu'il y a des figures qui montent silence. Par exemple, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.
Il avait pratiquement commencé par s'aligner sur Trump dans un premier temps. On l'a oublié, mais il y a quelques semaines, il a tenté l'apaisement. Et puis surtout, c'était un discours à l'intérieur des milieux démocrates, des dirigeants démocrates. Il fallait s'aligner sur l'électorat trumpiste qui allait revenir chez les démocrates. Alors ça, les socialistes ont essayé pendant des années en France. On a vu ce que ça a donné. Donc c'est pas du tout une bonne idée. Et Newsom a été réveillé d'une certaine façon par l'invasion, il faut bien le dire comme ça, de son État par le gouvernement fédéral. Donc, de ce point de vue-là, c'est un opposant maintenant relativement ferme. Le problème est que les démocrates n'ont pas de discours cohérent et d'activité cohérente. Schumer est inexistant. Hakeem Jeffries, qui est la personne qui dirige les démocrates au Congrès, on ne l'entend pas non plus. Et encore une fois, face aux atteintes réelles, graves à l'état de droit, les sénateurs, par exemple, ne bloquent pas le fonctionnement du Sénat, ce qui est tout à fait étonnant.
Mais est-ce qu'ils fourbissent leurs armes en vue des élections de mi-mandat ? C'est novembre 2026, ça va être un test important pour Donald Trump. Ça va venir vite.
Oui, mais voilà, c'est ça, c'est que fourbir leurs armes, si vous ne réagissez pas sur le moment, c'est un petit peu difficile de réagir six mois plus tard. Donc j'avoue que la stratégie, enfin plus exactement la stratégie ne m'échappe pas, parce qu'ils disent très explicitement que leur stratégie est de jouer à l'opossum, comme dit James Carville, qui a donné des mauvais conseils aux démocrates depuis le milieu des années 1990 environ, et qu'il s'agit donc de se rouler en boule et d'attendre que ça passe, et qu'ensuite on gagnera les élections. Mais ils n'ont pas du tout l'air de se rendre compte compte de fait que quand il disait que c'était un danger fasciste, c'était vrai. Mmh. Et on a l'impression qu'ils l'ont dit comme ça, mais qu'ils ne le croient pas vraiment au fond d'eux-mêmes. Mmh. Et du coup, ben, voilà.
Donc, une mobilisation populaire qui est importante, mais sans avenir, ou en tout cas sans portée politique concrète, sans relais politique des démocrates. Et puisqu'on pose la question de est-ce que Donald Trump est fragilisé, est-ce que c'est du côté de la justice que Donald Trump peut être fragilisé? Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, précisément, on évoquait Los Angeles, une cour d'appel de Californie doit statuer sur ce fameux déploiement de la garde nationale, parce que la semaine dernière, le déploiement avait été déclaré illégal, puisqu'il avait été pris contre l'avis des autorités locales. C'est un exemple, mais les mesures de les décisions de justice, elles se multiplient, je dirais presque chaque jour, suite aux décrets, aux décisions prises tambour battant au début du mandat par Donald Trump. Est-ce que ça peut être un grain de sable pour le président
américain ?
La première
idée, c'est que ce n'est pas la justice qui sauvera la démocratie. On a eu 240 recours. La plupart des juges de première instance ont retoqué l'action du président en disant « il est illégal de limoger un tel, il est illégal de bloquer les crédits, il est illégal de saborder l'agence USAID, il est illégal de faire telle et telle chose ». Simplement, ce sont ce qu'on appelle des ordonnances, un petit peu de référé, ce qui ne statue pas sur le fond. Donc ça bloque plus ou moins longtemps la politique tentée par Donald Trump. Mais il faudra une décision sur le fond, qui ensuite sera, si l'administration perd, il y aura un appel devant les cours d'appel. Et puis, comme Trump considère que la Cour suprême lui est acquise, parce qu'il a pu nommer 3 des juges, et qu'il y a maintenant une super majorité de 6 juges que moi, je ne peux pas appeler conservateurs, parce que beaucoup sont vraiment radicaux et déterminés à faire de la politique, c'est-à-dire à mettre en œuvre ce que les Républicains veulent depuis les années 80. On a déjà vu que la Cour suprême a accepté de se prononcer dans l'urgence. Alors ça, c'est un processus un peu compliqué. C'est que l'administration Trump demande à la Cour suprême de court-circuiter tout le système. C'est-à-dire, il y a une première décision de première instance qui bloque. Donc Trump est très fâché. Et au lieu d'accepter le cheminement normal, il demande à la Cour suprême de s'en mêler. Et déjà, durant le premier mandat, il avait fait beaucoup de ces demandes d'urgence, beaucoup plus qu'Obama et George W. Bush ensemble, en 16 ans, par exemple. Et là, ça recommence depuis le début de mandat, il y a pratiquement une vingtaine. Mais ce qui est inquiétant, c'est que la Cour suprême accède au désir de l'administration Trump, et souvent, ce sont des décisions non motivées. Dans une petite décision, souvent rendue à 1h du matin, elle défait ce que fait le juge de première instance. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas trop espérer de la justice. La justice a tellement fait de cadeaux, la Cour suprême en particulier, à Donald Trump. Rappelons-nous la décision sur l'immunité du 1er juillet 2024, disant « tous les actes officiels accomplis en tant que président sont dans une petite bulle dans laquelle le président jouit de l'immunité ». Donc tout ce qu'il fait là qui est illégal ne peut plus être condamné. Et comme les républicains au Congrès sont totalement tétanisés parce qu'ils ont peur que Trump leur mette un candidat en novembre, etc., ils n'osent rien faire. En fait, le salut, s'il y a salut, c'est l'opinion publique qui fera pression sur le Congrès pour que les républicains au Congrès se décident à bouger. Alors peut-être à voter des lois pour limiter son... Et puis peut-être une mise en accusation. Mais pour cela, il faudrait qu'au Sénat, les républicains acceptent de voter la destitution. Il l'aurait fait en 1974, mais les républicains de l'époque étaient des gens qui avaient des principes et qui croyaient encore à la primauté du droit et à la légalité. Ce n'est plus le cas.
En tout cas, sur la justice, j'en vois au débat qu'on avait eu avec ce même Pierre Gervais et qui est toujours d'actualité, parce qu'il en était ressorti, est-ce que la justice peut contrer Donald Trump ? Et c'était le nom qu'il avait emporté lors de ce débat. Anne Desine, Pierre Gervais évoquait le durcissement finalement du mandat de Donald Trump avec le meurtre d'une députée démocrate et de son mari, tentative de meurtre à l'encontre d'un sénateur et de son épouse. Ce sont des assassinats politiques selon le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Effectivement, le suspect, c'est un professionnel de la sécurité qui est enregistré comme républicain, qui est un supporter de Donald Trump. Et dans sa voiture, des flyers qui évoquaient les manifestations du week-end dernier ont été retrouvés avec des cibles comportant les noms de 70 politiciens démocrates, donc ça ne fait pas trop de doute, semble-t-il. Est-ce que ce durcissement du pouvoir, ce qu'on appelle cette militarisation du pouvoir, ça peut être une réponse de Donald Trump à la contestation. Et est-ce que c'est, ben ça, va, ça amorce un peu la deuxième partie de notre débat, mais est-ce que c'est ce qui annonce la suite du mandat du président américain ?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que depuis le début, et ça, en fait, je l'avais dit dans mon bouquin d'avant, c'est la contagion du mauvais exemple. Trump, par ses propos, légitime des propos racistes, violents, qu'avant, peut-être, des individus auraient bien eu envie de proférer, mais qu'ils n'osaient pas faire. Et là, il leur donne droit de cité. Et donc, on a assisté à une montée de la violence verbale, et cette violence verbale s'est traduite petit à petit en une violence physique. Le 6 janvier 2021, c'est cela. C'est une incitation à prendre d'assaut le Capitole. Les menaces contre les juges qui osent statuer contre le président, ce sont des citoyens qui portent la casquette rouge MAGA, Make America Great Again, qui considèrent que le président leur demande d'aller menacer ces gens qui s'opposent à sa politique. Donc ça, c'est un petit peu la contagion de la violence à la fois verbale et physique. Alors, la militarisation, il avait regretté durant son premier mandat, lorsqu'il y avait eu les événements Black Lives Matter, il avait voulu envoyer la garde nationale. Mais son ministre de la Défense de l'époque et ses conseillers lui avaient dit « Non, ça ne se fait pas. Tant qu'il n'y a pas des débordements énormes et qu'il faudrait invoquer la loi sur l'insurrection, c'est-à-dire argumenter qu'il y a une rébellion contre le gouvernement fédéral, il ne faut pas le faire. » Et il avait bien dit, dès le début, que là, durant le deuxième mandat, il ne se laisserait pas déborder et dès qu'il y aurait le moindre petit problème, il enverrait la garde nationale. C'est ce qu'il a fait. Il est en train de politiser le militaire, ça c'est clair, c'est ce qu'il a fait avec son défilé, là, sa fameuse parade, mais c'est ce qu'il a fait à Fort Bragg quelques jours avant, en tenant devant les militaires, qui sont censés être neutres, des propos totalement partisans, dignes d'un meeting de campagne. Donc vous voyez, il y a tous ces éléments, et il faut voir dans quelle mesure ils vont se développer encore un peu plus dans les mois qui suivent.
Eh bien, on va en parler des mois qui viennent. Notre question ce soir dans le débat du jour, est-ce que Donald Trump est fragilisé ? Évidemment, on s'intéresse à cette contestation à Los Angeles depuis 10 jours pour protester contre les interpellations de sans-papiers, à ces milliers de manifestations qui sont déroulées le week-end dernier aux quatre coins des États-Unis, qui ont mobilisé des millions de personnes. Mes deux invités sont Anne Desine, que l'on entendait, qui est professeur des universités, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, autrice du livre « Les juges contre l'Amérique », et Pierre Gervais, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. On n'est cependant pas face à un véritable tournant. Vous nous dites en tout cas que c'est cette mobilisation, car il n'y a pas le relais politique, évidemment, des démocrates qui restent éteints après leur défaite à la dernière présidentielle. Mais Pierre Gervais, les prochains mois, justement, comment ils s'annoncent selon vous ? Donc il y a cette militarisation du pouvoir, comme on l'a dit, ce durcissement du pouvoir. Il y a un enjeu économique qui va être fort. Il n'y a plus Elon Musk, on n'en a pas encore parlé. Est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Donald Trump ? Il y a ce grand projet-là, magnifique, selon le président américain, budgétaire, qui peut peut-être aussi entraîner une levée de bouclier de la part des marchés.
Alors, la grande et belle loi,
c'est comme ça qu'elle s'appelle.
La grande et belle loi comporte toute une série de mesures qui vont effectivement secouer l'économie américaine de manière assez violente, puisqu'elles détruisent, entre autres, en partie, toute une partie du filet de sécurité sociale qui protégeait une partie de la population américaine qui était déjà dans des situations très fragiles. Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Pour une fois, je vais être un tout petit peu moins pessimiste que ma vis-à-vis et dire que sur le plan strictement du droit, ce qui a été frappant jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas eu de moment où Trump et son administration ont véritablement franchi le Rubicon. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, de la part de l'administration Trump, le maintien d'une fiction légale. Donc là, on est plutôt sur du Orban, c'est-à-dire d'un discours qui prétend maintenir l'action du président dans la légalité. Alors, c'est généralement assez fantaisiste.
Mais c'est illégal, mais pas trop.
C'est illégal, mais ça prétend être légal. Ouais. Ça, c'est la partie importante. C'est-à-dire qu'il y a quand même... On investit un tout petit peu dans l'idée qu'on reste dans le cadre de la légalité. C'est le seul petit élément d'optimisme que j'aille dans les mois qui viennent. Pour l'instant, du moins, par exemple, ils ont ramené le pauvre immigré vénézuélien qui avait été envoyé à El Salvador, plus ou moins par erreur. Mais ils l'ont immédiatement remis sous des accusations fantaisistes pour pouvoir maintenir la pression légale. Donc, il y a ce petit élément-là. D'un autre côté, effectivement, tous les éléments sont là pour véritablement une prise de pouvoir violente, puisque, comme on l'a vu à Los Angeles, à la moindre manifestation un peu ferme d'opposition à la politique de Trump de la part de la masse de la population, il y a eu immédiatement intervention de l'armée. Ouais. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, ça, c'est aussi quelque chose qui est ouvert à mes yeux pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel point une tradition républicaine qui a été finalement lancée dans les années 1990, de trucage des élections, de charcutage électoral, de pression sur les électeurs pour qu'ils ne votent pas, etc., va se traduire par un effort concerté pour gagner les prochaines élections, celles de 2026. Alors, on va avoir un premier test en Virginie à cet automne, hein, puisque la Virginie a la particularité bizarre de voter toujours en décalé par rapport au reste du pays. Donc, on aura un premier ensemble d'élections en novembre, on verra comment ça se passe. Jusqu'à présent, les élections isolées, hein, les élections spéciales, se sont déroulées normalement, un petit peu à ma grande surprise, je dois dire. Je pensais qu'il ferait plus d'efforts pour les voler, mais peut-être. Et donc on est dans cet entre-deux.
On est dans un nouveau temps, surtout, parce que le temps des 100 premiers jours a été tellement, encore une fois, tambour battant, il ne pouvait pas tenir. Et sur quoi ce temps peut-il déboucher? Ça peut être compliqué pour le président américain.
Le processus continue. On parlait des droits de douane. En réalité, les droits de douane étaient, dès le début, une opération plus ou moins de piratage, puisqu'il y a aussi une forte dimension de corruption dans l'administration Trump. Starmer vient de signer un accord séparé entre la Grande-Bretagne et les États-Unis sur le plan des droits de douane, dont les droits de douane vont être utilisés d'une certaine façon pour extorquer de l'argent au reste de la planète. C'est un peu un racket. C'est tout à fait, ça correspond tout à fait à la faction dont Trump fonctionne. Donc, on a un mode de fonctionnement qui est maintenant bien installé et on ne sait pas s'il va accélérer ou si, au contraire, on va en rester là. En Europe, on est habitué. On a quand même toute une série de régimes autoritaires en Europe maintenant. Est-ce que ça va donner quelque chose de comparable ou quelque chose de plus dur à la Russe? Je suis absolument incapable de le dire.
On n'a pas tant parlé que ça de la situation internationale. Il y a beaucoup à dire. Pourtant, sur... Alors, la paix en Gaza, en Ukraine, que Donald Trump voulait régler en 24 heures, Gaza, les critiques parce qu'il ne s'est pas opposé à l'offensive israélienne en Iran. Est-ce que ça peut peser, ça, Anne Desine?
Alors, on sait qu'aux États-Unis, généralement, la politique internationale, la politique étrangère n'intéresse pas les électeurs. Mais là, il est clair que Donald Trump s'est fait élire comme pacificateur, totalement hostile à ce qu'avaient fait les administrations républicaines précédentes, qu'il a été le premier à critiquer. Il a critiqué la guerre en Irak, ce qu'aucun républicain n'avait osé faire. Et donc, il s'est quand même un peu beaucoup avancé, puisqu'il a dit « je vais mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures » et même chose, Gaza. Et puis, devant cet échec, il s'est dit « il faut quand même changer le narratif » parce que, rappelons-le, c'est un homme des médias. Donc, quand il est en difficulté, il essaie de trouver un nouveau sujet où peut-être il sera moins en difficulté. Donc, il a tendu la main à l'Iran de façon totalement paradoxale puisque c'est lui qui a sabordé l'accord qui avait été signé sous Obama et c'était un accord multilatéral avec, à l'époque, la Russie et la Chine, co-signataires l'Union européenne, les États-Unis. Là, en bilatéral, il propose quelque chose aux Iraniens. Simplement, entre-temps, l'Iran est très affaibli par Gaza, par le Hezbollah, le changement de régime en Syrie. Et Netanyahou a décidé de ne pas écouter Donald Trump, qui a perdu de son prestige. Même Netanyahou ne l'écoute plus.
Et un dernier mot, je vais entendre Pierre Jarry, parce que vous avez évoqué le mot destitution. Vous avez dit que c'était compliqué, mais est-ce que c'est imaginable, ça?
Pas dans l'état actuel des choses, non. Ça, c'est tout à fait inimaginable. De toute façon, Trump soutient Netanyahou et les massacres de Netanyahou à Gaza, et il soutient d'une certaine façon tous ceux qui gagnent sur la planète. C'est d'ailleurs un petit peu le risque, c'est qu'on peut voir des choses très inattendues de la part de Trump sur ce point.
Et Donald Trump, donc, pas si fragilisé, malgré la mobilisation, la contestation contre lui, car, évidemment, en premier lieu, le manque de relais des démocrates à suivre dans les prochains mois. Merci beaucoup à vous deux, Anne Desine et Pierre Jarvet.
Merci.
RFI.
Et merci à vous de nous écouter. Le programme à suivre, ce sera le Grand Journal du soir dans une minute, puis Afrique Soir dans 30 minutes. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Allez, le programme ce soir, Zéphirin.
Un Moyen-Orient dénucléarisé au cinquième jour du conflit entre Israël et l'Iran. C'est ce que réclament dans un communiqué 21 pays, dont 11 États africains.
Autre titre, un ancien diplomate belge qui pourrait bientôt être jugé pour son rôle dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba en janvier 1961.
Absolument, à ce jour, personne n'a été encore jugé. Dans cette affaire, la famille de l'ancien Premier ministre avait déposé plainte il y a 14 ans. Aujourd'hui, le parquet belge vient de demander le renvoi de l'ancien diplomate devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. On parlera aussi de la découverte d'une importante mine d'or en Côte d'Ivoire, découverte réalisée par une entreprise australienne.
Eh bien, merci Zéphirin Claudio. On retourne dans 30 minutes. Et d'ici là, c'est le grand journal du soir à suivre dans les prochaines secondes.